Le Mag, midi, midi 30, sur Radio La Cône.
Le Mag, c'est le rendez-vous de milieu de journée sur Radio La Cône. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les émissions déjà passées, n'hésitez pas à vous connecter au www.radiolacône.fr. Aujourd'hui, dans les studios de Radio La Cône, c'est Bernard Roumestan, adjoint au tourisme à la mairie de Murat. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça va, bien installé?
Oui, très bien.
Bon, ben impeccable. Alors moi, je suis contente quand mes invités sont bien installés. Alors avec vous, monsieur Roumestan, nous allons nous intéresser au patrimoine de Murat-sur-Vèbre. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, en parlant des mégalithes, de la jasse, de la combe de la Jousse notamment, connaît-on bien l'histoire de Murat-sur-Vèbre?
Oui, l'histoire de Murat-sur-Vèbre, d'une façon générale des monts de la Cône, est très bien connue. À la fin du 19e siècle, quelques érudits, en particulier Victor Rascol, ont analysé les archives, les nombreuses archives qui étaient restées, en particulier dans la tour, dans le château de Boissezon. Et puis depuis, beaucoup de gens le savent, le centre de recherche de Rio Montagnier mobilise les bonnes volontés, coordonne les activités et constitue un fonds de documentation sur l'histoire très important. Mais l'histoire, on ne sait pas toujours tout et on fera encore de très belles trouvailles pour ceux qui sont passionnés par l'histoire du pays. Il reste encore beaucoup à connaître sur le pays.
Alors justement, on va voir qu'est-ce qu'on met en place pour mieux connaître cette histoire et puis surtout pour la partager, parce que c'est pas tout de la connaître. Si elle reste dans les cartons, ça sert pas à grand-chose.
Oui, alors, c'est tout à fait exact. Nous avons récemment ouvert une nouvelle salle d'exposition au rez-de-chaussée du Centre d'interprétation des statues menhirs. Alors cette salle existait précédemment, mais nous l'avons rénovée, réhabilitée, facilité son accès. Et l'objectif de cette salle, c'est de raconter, à grands traits bien évidemment, parce qu'on ne va pas rentrer toujours dans les détails, mais de raconter à grands traits l'histoire de Murat-sur-Vèbre.
Alors monsieur Roumestan, je vous propose juste de rentrer dans le vif du sujet, juste après les offres d'emploi de mon collègue, et on parlera justement de la mise en place de ce nouvel espace muséographique à Murat.
Le Mag, sur Radio La Cône.
Merci Dan, on te retrouve à 16h pour Déconnect en direct depuis les studios de Radio La Cône. Vous écoutez toujours Le Mag jusqu'à 12h30 sur Radio La Cône. Nous nous intéressons aujourd'hui au patrimoine de Murat avec monsieur Roumestan, adjoint tourisme de Murat-sur-Vèbre. Avant les offres d'emploi, vous nous indiquiez que l'histoire de Murat était riche et qu'un nouvel espace muséographique venait de voir le jour. Alors comment avez-vous réuni toutes les pièces que l'on trouve dans ce nouvel espace?
Oui, alors Murat-sur-Vèbre dispose depuis plusieurs années d'une importante collection de matériaux archéologiques qui ont été retrouvés au fil du temps, plus particulièrement d'ailleurs à partir des années 50. Il y a eu des activités peut-être qui ont étendu l'agriculture, des chercheurs peut-être plus déterminés que qu'avant, et donc on a une importante collection d'archéologiques et surtout quelques experts qui, au fur et à mesure des trouvailles, nous ont permis d'expertiser, d'identifier ces matériaux, parce que quelquefois, c'est pas tout à fait évident de distinguer une hache polie de la préhistoire. Et puis, par exemple, sur les poteries, distinguer une poterie romaine d'une poterie plus récente, ça demande une expertise. Et nous avons eu la chance d'avoir ce type de personnes qui sont passionnées autour de cette collection. Et c'est la raison pour laquelle nous avons depuis quelques jours, quelques semaines, mis en valeur, présenté au public les matériaux les plus caractéristiques. Et nous avons quand même quelques jolies petites trouvailles.
D'accord. Alors ben justement, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous disiez depuis l'ère préhistorique en fait?
Ah oui, tout à fait.
C'est assez impressionnant quand
oui,
même.
Oui, tout à fait. Notre Murat-sur-Vèbre et d'une façon générale les pays des monts de la Cône ont été traversés depuis les Celtes jusqu'à aujourd'hui, ont été traversés par toutes les civilisations qui se sont succédées en France. Et nous avons une très belle collection de matériaux provenant de la préhistoire. Nous avons aussi, en plus grand volume, beaucoup de matériaux provenant de la période gallo-romaine, parce que, encore une fois, beaucoup de chemins, des chemins bien sûr très anciens, mais des chemins plus récents, ont traversé notre territoire. D'ailleurs, il en reste un de ces chemins, c'est le chemin de pèlerins de Saint-Jacques qui, à quelques détails près, à retrouver ces grands chemins antiques.
D'accord. Donc justement aussi, est-ce que l'histoire des pèlerins a amené, enfin des pèlerins de Compostelle a amené une certaine histoire à Murat ? Enfin, est-ce que c'est lié quand même donc au Compostelle, par exemple la voie romaine, est-ce qu'elle passait aussi pas loin peut-être de Murat ?
Oui, des choses. Oui. Alors, donc, la voie romaine est bien connue. D'ailleurs, sur cette voie romaine, on a trouvé des pièces de monnaie romaine, bien évidemment. Cette voie romaine a été réutilisée en partie beaucoup plus tard, et nous avons aussi quelques exemples archéologique de la civilisation romaine, beaucoup de poteries, surtout autour du mont Gos. Il y a deux ou trois gisements extrêmement importants de l'époque romaine. Alors plus récemment, nous avons des pièces de monnaie du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle le trésor de Murat-sur-Vèbre. Il était dans une ruine du côté de Castelsec et on l'a retrouvé il y a à peu près une trentaine d'années, beaucoup de pièces, et nous en avons nous le présentons, nous en présentons quelques-unes. Et puis plus récemment, lorsque nous avons restauré les vestiges du château de Canac, un des passionnés de cette histoire locale, il s'appelle toujours d'ailleurs Olivier Razembeau, a découvert, lui, des pièces de monnaie, alors bien sûr plus récentes, qui sont du temps d'Henri II, de la Renaissance, d'Henri IV.
D'accord. Donc en fait, dans cet espace muséographique, si on comprend bien, on va se promener de la préhistoire jusqu'à en fait à l'époque moderne, à nos anciens, à nous peut-être, c'est ça ?
Oui, alors c'est tout à fait le parti pris qui a été pris par ceux qui nous ont aidés à construire cette présentation. Il me faut les citer quand même.
Ah ben allez-y, on est là pour ça aussi.
C'est le père Record qui est aujourd'hui en maison de retraite à Albi, mais qui est né à Murat-sur-Vèbre et qui, tout au long de son activité, au cours de ses vacances, a retrouvé un certain nombre de pièces. Et c'est lui qui, maintenant, nous a aidés à réidentifier certaines pièces et à les positionner en fonction de leur époque. Parce que c'est pas pour moi qui suis un peu éloigné de cette histoire-là, c'est pas évident de distinguer une pierre de la préhistoire d'une pierre beaucoup plus récente.
Mais ah oui, c'est sûr.
Je voudrais citer un deuxième qui est Christian Servelle. Christian Servelle est celui qui nous a accompagnés dans l'installation du centre d'interprétation des statues menhirs. Il est aujourd'hui retraité après un parcours important à la DRAC et il continue bénévolement à nous assister, à nous conseiller. Bon, il y aura d'autres personnes, j'espère que je m'excuse de ne pas les citer, mais on ne peut pas citer tout le monde.
Non, je pense qu'ils ne seront pas fâchés. Alors pour finir peut-être sur cet espace muséographique, si on veut aller le visiter, comment on fait ? Il est lié au musée des mégalithes ?
Alors il est en entrée libre, il est ouvert tous les jours aux mêmes horaires que l'agence postale et l'office de tourisme, c'est-à-dire de 9h15 à 12h15, tous les jours du lundi au samedi, et pendant les vacances, il sera ouvert en plus une partie de l'après-midi. Et bien évidemment, il est gratuit.
Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis, il faut le dire, hein, c'est un musée qui a été réfléchi, qui est travaillé et qui a quand même une scénographie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui. On a essayé de le présenter le plus simplement possible, mais de surtout bien les identifier. Je crois qu'il faut, quand on présente ces pièces, il faut être vrai, il faut être scientifique, il faut pas raconter des histoires, il faut présenter les choses avec le maximum de précautions sur leur datation, par exemple.
D'accord. Alors, monsieur Roumestan, ben, c'est l'heure déjà de marquer une pause musicale sur les ondes de Radio Lacône. Florent Motte et Camille Lou arrivent avec quelque chose de magique. C'est un peu ce que vous nous racontez aujourd'hui. On continue à parler du patrimoine de Murat-sur-Vèbre et on parlera du petit patrimoine. Vous allez voir, c'est aussi passionnant.
Le MAG, midi 30 sur Radio Lacône.
C'était Florent Motte, Camille Lou sur les ondes de Radio Lacône. Aujourd'hui dans le MAG, mon invité est Bernard Roumestan. Il est venu tout nous dire sur le patrimoine de la commune de Murat-sur-Vèbre où il est adjoint au tourisme. Il y a un instant, donc monsieur Roumestan, vous nous parliez donc de l'espace muséographique. On pourrait parler du patrimoine bâti très intéressant que sont les tours de Boissezon, le château de Canac, mais on va petit peu passer dessus, pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est parce qu'on voudrait aussi mettre l'accent un peu sur le patrimoine bâti, le petit patrimoine bâti si l'on peut dire, qui lui aussi est une mine d'informations sur l'histoire un peu plus contemporaine, on va dire, de nos communes. Et récemment, il y a eu la restauration de la jasse de Combes, la Jousse, si je le dis bien. C'est bien ça ?
C'est ça, c'est tout à fait ça, oui.
Mais
oui,
peut-être avant, dire un petit mot sur ce patrimoine, ce petit patrimoine bâti.
Oui, vous avez raison de mettre l'accent sur ce petit patrimoine, parce que nous sommes un espace où il y a eu, à partir de la fin du 19e siècle, une population importante dans le domaine de l'agriculture. Et ils ont laissé ce qu'on appelle, à mon avis, un peu improprement le petit patrimoine. C'est le patrimoine des vestiges de la vie d'autrefois. Ils sont particulièrement nombreux, ils sont au détour d'un chemin, ils sont au milieu d'un petit hameau. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant, mais je crois qu'il faut le poursuivre. C'est intéressant d'en parler, parce que ce qu'il faut bien signaler, c'est que ce petit patrimoine, on a un peu de peine à solliciter, d'obtenir des subventions importantes pour ce petit patrimoine, et donc il nous faut innover et trouver des solutions de financement, et ne pas oublier aussi que c'est le bénévolat qui nous aide beaucoup à entretenir, d'une part à le restaurer, et ensuite à l'entretenir.
D'accord, alors juste... Pour en donner un exemple, il y a la jasse de Combe-la-Jousse dont la restauration a été entreprise avec l'aide, si je ne me trompe pas, de la Fédération de l'Agneau du Bassin de Roquefort et la Fondation du Patrimoine.
Tout à fait. Oui, on parle de la jasse parce que c'est une restauration, j'allais dire, un peu exemplaire. D'abord, il faut que les propriétaires acceptent qu'on y fasse des travaux, et en contrepartie, il faut qu'ils mettent à disposition de l'autorité publique, en l'occurrence la mairie de Murat, il faut qu'ils confient ce petit patrimoine à une communauté pour qu'on puisse, bien évidemment, y investir dessus. Alors, il y a eu un autre partenaire qui était la Fondation du Patrimoine, et qui est particulièrement attentif avec son agence de Toulouse, l'agence Midi-Pyrénées, qui est très attentive à ce qu'on appelle du patrimoine de proximité. Bien. Et donc ça nous a permis de rencontrer une confédération professionnelle qui s'appelle donc Agneau Interpro, et qui très intelligemment font la promotion de leurs produits, qui est l'agneau de la Cône, oui, à travers la restauration du patrimoine. Donc ils avaient relativement investi en Aveyron, et on leur a expliqué que... Il y avait aussi, sur nos monts de la Cône, des vestiges de cette agriculture d'élevage, et donc la jasse de Combe-la-Jousse, tombée à point, si je puis dire, parce qu'il fallait en plus s'en occuper assez rapidement, parce qu'elle a été construite à la fin du 19e siècle, sans être beaucoup entretenue. Elle n'a plus d'usage aujourd'hui dans le type d'élevage que nous avons dans les monts de la Cône. Et donc voilà un peu une opportunité. C'est une très belle construction.
Alors juste excusez-moi, pour peut-être ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une jasse, juste tout simplement ?
Alors une jasse, c'est un petit bâtiment qui se trouve, celle-ci, au milieu des champs. Et jusqu'aux années 50, les propriétaires de troupeaux de brebis, c'était de petits troupeaux entre 10 et 30 têtes des brebis, bien sûr, de la Cône. Il est sorti toute la journée et au fort de l'été, on les met à l'abri pour éviter qu'elles soient à l'ombre, qu'elles soient à l'abri, pour éviter aussi qu'elles rentrent au milieu de journée vers le hameau d'où elles provenaient. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de jasses qui ont été construites au milieu des champs, voilà, des monts de la Cône.
Ben, ça permet aussi de savoir ce que c'est une jasse, parce que je pense qu'on l'oublie, puisque ce n'est plus
utilisé.
Oui,
parce que ça, bien sûr, on n'a plus cet usage-là aujourd'hui.
Et quel est l'intérêt du coup pour les propriétaires de restaurer cette jasse ? Des gens vont pouvoir aller la voir, vont pouvoir passer dans le champ pour aller la voir ?
Oui, alors il se trouve que cette jasse se trouve quasiment sur le chemin de randonnée qui est par ailleurs bien connu, qui est le chemin de randonnée des Tourelles. Donc ça fait une petite halte sur le chemin de randonnée. Ça explique aussi aux visiteurs... nos paysages, parce que à travers ces jasses, c'est aussi le rappel de l'élevage qui a constitué nos paysages. Et bien sûr, on en profitera pour mettre quelques photos peut-être pour d'ailleurs expliquer, rappeler aux citadins comment on élevait les brebis à cette époque-là.
D'accord, donc ça permet toujours de renseigner et de donner plus de détails. Y a-t-il d'autres peut-être petits patrimoines bâtis dont vous réfléchissez à restaurer ? Je sais pas, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez peut-être compris.
Mais je vous ai compris, oui, mais je vous ai compris comme disent. Oui, non, je voudrais signaler d'autres restaurations parce que ça me permet de mettre un peu en avant le bénévolat. Je vais dire deux mots sur ce qui s'est passé dans le petit hameau de la Bessière autour de l'église. Eh bien, il y avait une remise en pierre qui menaçait ruine. Eh bien, les habitants se sont mis à plusieurs et ont donc, avec l'aide d'ailleurs d'un Laconais, il s'appelle Michel, il se reconnaîtra sans doute. C'est un ancien, il était maçon dans son activité principale, et donc ils ont rénové ce bâtiment. D'accord. Ils ont poursuivi. Il y avait aussi, comme il y a souvent autour des églises, le jardin du curé. Il y avait un mur qui lui aussi était un peu décrépit. Et bien ils ont refait ce mur en pierre rejointée, et aujourd'hui on voit un coin très accueillant qui est très agréable pour ceux qui vivent autour et qui est aussi très attractif pour nos visiteurs. Donc voilà un exemple de bénévolat qui pendant plusieurs semaines d'ailleurs on fait ce travail entre eux.
Voilà. D'accord. Bon, mais c'est à saluer. Monsieur Roumestan, le temps passe très vite puisque c'est déjà 12h31, on est en retard. Donc, on vous recevra à nouveau pour d'autres sujets, j'en suis sûre, pour encore parler de notre belle région, et oui, de notre beau territoire. Je vous remercie, monsieur Roumestan. Je vous dis à très vite.
Alors, merci de votre accueil.
Merci beaucoup. Demain, c'est avec Marco de Radio Salvetta Pénard que nous ferons le duo du vendredi du MAG. Là, on se quitte en musique. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bye bye.